Drink more water.
À la mi-octobre 2025, les associations Génération Future et Data for Good éditaient une carte, Dans mon eau, qui révèle la qualité de l'eau partout en France. Elle est réalisée à partir des données officielles publiées par les agences régionales de santé et les fournisseurs d'eau. Dans la Rajoie, il ressort des non-conformités chroniques pour les pesticides et des taux de nitrate et de perchlorate élevés. Faut-il conclure que l'eau du robinet n'est pas saine? Quelles solutions sont mises en place pour améliorer la qualité de l'eau? Dans cette série d'entretiens, nous essaierons d'apporter des réponses à ces questions. Dans cet épisode, nous donnons la parole à Alexandre Cousin, élu écologiste au Conseil régional des Hauts-de-France. Il participait il y a peu à une réunion publique sur l'eau dans le cadre du Printemps Arageois, qui réunit écologistes et socialistes en vue des élections municipales de mars 2026. Lors de cette réunion, la question de l'eau était envisagée sous trois angles: la qualité, la quantité et la gestion. Nous évoquerons ici leurs propositions concernant la gestion de l'eau en lien avec les enjeux agricoles et alimentaires. Nous faisons d'abord un état des lieux de la qualité de l'eau dans la communauté urbaine d'Arras.
La première chose qu'on constate, c'est qu'on a une qualité de l'eau dans la région Hauts-de-France qui est très inférieure à celle qu'on constate sur le territoire national. Cette qualité de l'eau, on a pu l'observer notamment grâce au travail de Génération Future, qui a publié sur des données qui sont facilement accessibles sur le site dansmoneau.fr, une cartographie réactualisée régulièrement qui permet d'avoir les dernières données issues notamment de l'ARS et qui nous donne un panorama de la région Hauts-de-France qui est assez inquiétant. Quand vous avez votre carte de France sur la qualité de l'eau qui prend en compte les pesticides, les nitrates, les PFAS et les perchlorates, on voit bien qu'il y a une particularité Hauts-de-France sur le territoire national. Et à l'intérieur de ce territoire national et régional, on voit que l'Arageois est particulièrement touché par un certain nombre de molécules qui posent des soucis sanitaires et de santé publique, bien évidemment. Donc on a un sujet sur l'eau dans l'Arageois qui est clair, qui est évident, qui est attesté par ces données. La gestion de l'eau qui est faite dans le secteur, c'est une gestion déjà, alors techniquement, on est sur une délégation de service public qui aujourd'hui est obligée de traiter à l'arrivée une eau qui est polluée à la source par un certain nombre de molécules chimiques, parfois très anciennes. C'est le cas des perchlorates qui sont issus notamment du conflit de la Première Guerre mondiale sur le territoire. Et donc là, on paye un double prix. Les territoires ont été ravagés par la Première Guerre mondiale. Et plus de 100 ans après, on a un résidu de pollution chimique important quand même, parce qu'aujourd'hui, ces perchlorates font que sur votre facture d'eau, très souvent, vous voyez la mention, cette eau est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois. Et parfois, quand certains seuils sont dépassés, y compris aux femmes qui allaitent et aux enfants jusque 3 ans. Donc on voit bien que si on déconseille cette eau à cette partie de population-là, c'est bien que de toute manière, il y a un problème plus grave, qui est certes plus insidieux sur une partie de population qui est bien évidemment plus fragile que le reste de la population en bonne santé, mais ça indique bien qu'on a un problème sanitaire sur les perchlorates, notamment.
Qu'est-ce que tu penses de ce qui est fait dans la communauté urbaine d'Arras pour garantir une bonne qualité d'eau ?
Ce qui est fait très principalement à l'échelle de la communauté urbaine, et heureusement que c'est fait, c'est de traiter, notamment via des processus de charbon actif, l'eau à l'endroit où on va la puiser, sur les stations de captage notamment. Alors, il y a un projet qui a été annoncé notamment à Annie. À Méolens, l'eau est déjà traitée par traitement charbon actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on distribuait l'eau telle qu'on l'a captée sur les zones de captage, on ne pourrait pas la distribuer à la population du territoire parce qu'elle est trop polluée sur un certain nombre de molécules. Le problème de ce choix qui est fait, qui est encore une fois essentiel, c'est que si on ne traite pas à la source, on risque d'avoir de plus en plus de pollution d'intrants. Et à un moment donné, en plus, on sait que certaines molécules, notamment concernant les PFAS, sont tellement infimes qu'il est très compliqué de les traiter avec du charbon actif notamment. Donc on va dire que l'objectif quand même, c'est d'aller gérer à la source le problème. Et pour gérer à la source ce problème, il faut bien analyser pourquoi on se retrouve avec des pollutions pareilles sur ces quatre pollutions. Et il faut absolument diminuer l'arrivée de ces intrants chimiques dans la ressource eau. Et ça nécessite des décisions politiques qui sont compliquées. Ça, on ne le nie pas, parce qu'elles impliquent le monde agricole. Et on voit à quel point le monde agricole est aujourd'hui en délicatesse et en remue-ménage autour de toutes les décisions politiques, et encore plus en ce qui concerne l'eau. Donc ça, c'est le premier point. Il y a l'industrie aussi qui aujourd'hui, sur la question des PFAS, fait des rejets et a fait des rejets sur certains sites qui pénalisent aujourd'hui la population. Et ça, c'est dès l'instruction des dossiers industriels qu'il faut avoir la visibilité sur les émanations qui sont faites sur un certain nombre de processus industriels. Mais il y a des décisions politiques fortes à prendre. Et ça nécessite du courage qui est parfois compliqué. Et ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table et qu'il y ait quand même un accord de toutes ces parties prenantes.
Justement, la fois où on s'est vu, c'était lors de cette réunion sur l'eau par le printemps arrageois. Donc j'imagine que si vous organisiez cette réunion, c'est qu'il y a un programme concernant la gestion de l'eau. Vous, quelles seraient vos propositions pour améliorer, de prime abord, sa qualité ?
Si on prend point par point, on va prendre le monde agricole par exemple. La filière bio a été laminée ces dernières années par les réformes budgétaires qui ont très fortement pénalisé tous les agriculteurs bio, les maraîchers bio, qui sont aujourd'hui maintenant très peu aidés par l'État et par la PAC. La première des choses, il y a quelque chose qui s'appelle les paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire qu'on considère qu'à un moment donné, des agriculteurs, des agricultrices qui vont cultiver à proximité des cours d'eau, des nappes phréatiques et des zones de captage en n'utilisant pas de molécules chimiques qui vont se retrouver in fine dans la ressource eau, eh bien, ces personnes, ces agriculteurs, il faut les aider financièrement. Parce que, in fine, nous n'avons pas, quand ces pratiques vertueuses sont mises en place, à payer dans les conséquences actuelles de retraitement de l'eau. Et donc, il faut absolument mettre en place ces paiements pour services environnementaux qui sont essentiels. Ça, c'est le premier point. Il faut absolument garantir qu'un certain nombre de zones de captage, de territoires et de zones autour des cours d'eau, et ça c'est ce que fait très bien notamment le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, qui fait des préconisations qui sont pour la plupart toutes excellentes, le problème étant principalement que les préconisations qui sont faites par le SAGE ne sont pas suivies de décisions politiques. Mais on sait comment protéger notamment le crinchon, la scarpe, si on prend notre territoire. Et c'est sûr que tout autour de ces rivières, des zones de captage, il faut mettre un périmètre en place où on favorise l'agriculture bio. Parce qu'encore une fois, ça permet de ne pas polluer à la source la ressource en eau, et on sait à quel point elle est dans le secteur. Et ça, en plus, si on va un petit peu plus loin, c'est pour ça que l'eau, c'est une question qui est structurante. C'est-à-dire que si vous mettez en place et vous installez des maraîchers en bio, ce que fait par exemple la ville d'Achicourt, qui a un projet d'installation d'un maraîcher bio le long du crinchon, qui a pour vocation d'alimenter après les cantines sur une alimentation locale de qualité bio. Donc tout ça est bénéficiaire et tout bénef pour toute la population, les enfants, les gens qui consomment l'eau. Donc là, je pense qu'on pourrait mettre en place, et des communes l'ont fait, Grande-Synthe l'a fait, installer des maraîchers d'ailleurs qui sont là communaux, payés par la commune et qui pratiquent du maraîchage bio qui est ensuite distribué dans les cantines du secteur. Mais Mouans-Sartoux, par exemple, on a un superbe projet aussi à Avion qui est mené avec les Anges Gardins, d'une énorme une serre nourricière qui est très importante et qui a pour vocation de nourrir soit via des paniers de légumes, comme le font les AMAP, qui sont aussi un modèle à encourager, et le tissu des écoles et de la restauration publique, et via le CCAS, des personnes qui sont en souffrance économique et qui n'ont parfois pas les moyens de mettre de l'argent sur une bonne alimentation. Donc il y a aussi cette question-là. On a plein de modèles très chouettes qui fonctionnent et qui sont gagnants-gagnants pour tout le monde.
L'exemple d'Achicourt a l'air très intéressant. Pourquoi sur un territoire comme la communauté urbaine d'Arras, c'est pas généralisé, c'est pas au moins développé davantage? Qu'est-ce qui pose des freins à ce genre d'initiative?
Il n'y en a pas plus parce qu'il n'y a pas la volonté politique pour l'instant. Je pense qu'elle est en train de naître sur le territoire. On pourrait penser aussi qu'on a perdu cette vocation maraîchère. Alors même que si on prend le territoire de la communauté urbaine d'Arras, on a quand même une ville, Achicourt, qui était le poumon maraîcher du territoire, où énormément de maraîchers et de maraîchères alimentaient le marché de la ville, qui était déjà un des marchés les plus importants de France. Donc on a quand même cet historique, ce savoir-faire qui s'est certes un peu perdu, mais on avait une autonomie alimentaire bien plus importante il y a de ça 60 ans sur le territoire. Et aujourd'hui, il suffit d'avoir un peu de volonté politique pour installer ces maraîchers et maraîchères. on peut le faire. C'est encore une fois des surfaces qui sont raisonnables et c'est du gagnant-gagnant et pour protéger la ressource en eau et pour créer de l'emploi paysan, parce qu'on voit aussi qu'il y a un problème sur le revenu paysan, sur le modèle agricole français. C'est de l'alimentaire pour les écoles et c'est l'eau protégée. Donc tout le monde est gagnant dans ce système et tout le monde comprend très bien ce genre de proposition.
Puisqu'on est sur des questions politiques et de gestion, là, le contrat avec Veolia vient d'être renouvelé pour plusieurs années, depuis le 1er janvier 2026. Vous, dans votre programme, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là, de la délégation de services publics à la multinationale Veolia? Est-ce que vous seriez plutôt pour le retour en régie publique? Quel impact ça pourrait avoir sur la qualité de l'eau, notamment?
On est très clairement pour le retour en régie publique de l'eau sur le territoire. C'est quelque chose qui a été fait par un grand nombre de communes, qui fonctionne, qui donne des résultats et qui permet d'avoir la main directement sur les objectifs que l'on va avoir et sur la qualité du réseau, alors qui est plutôt bon sur l'Arageois. Il faut être aussi honnête et concret quand on dit les choses. Le réseau est plutôt bon, mais on peut avoir des objectifs de l'améliorer encore. On peut maîtriser davantage aussi l'intégralité, en tout cas de la distribution de l'eau. Et on génère aussi des revenus parce que, encore une fois, la question de l'eau et économiquement, l'eau, c'est un domaine qui est rentable. Sinon, des grosses structures comme Veolia et d'autres ne seraient pas sur le marché et ne lutteraient pas tant pour garder la main sur un certain nombre de délégations de DSP autour de l'eau. Donc, avoir la main sur l'eau, c'est avoir la main sur les choix politiques qu'on fait autour de cette question et sur un certain nombre de revenus qui permettent aussi, par exemple, de mettre en place ces paiements pour services environnementaux pour les agriculteurs, de mettre en place les premiers mètres cubes gratuits pour la population qui, dans un contexte économique difficile, en a besoin. Alors, il faut doubler ces premiers mètres cubes gratuits avec une sobriété très forte. C'est-à-dire que quand on dépasse un certain nombre de mètres cubes, là, il faut que le coût de l'eau soit très important. Mais en tout cas, sur les besoins essentiels et vitaux de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire se laver, faire cuire ses pâtes, c'est les besoins principaux. Là, il faut que ce soit le moins cher possible et gratuit au maximum sur ces premiers mètres cubes, c'est essentiel. Donc on le porte, ça fonctionne, il y a plein d'agglos qui l'ont fait, qui ne reviennent pas en arrière quand elles le font, ça prouve bien quand même globalement que ça tourne, et c'est quelque chose qu'on mettrait en place bien évidemment si on l'emportait aux prochaines municipales.
Alors je précise quand même que depuis cette année, entre en vigueur un tarif progressif de l'eau selon la quantité consommée. Un autre problème qui est de manière récurrente mis en avant quand on parle de la délégation de services publics, c'est la transparence des informations qui sont transmises. Au-delà même de la possible participation des citoyens aux décisions, il est parfois reproché un manque de transparence. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates aussi à l'échelle communautaire sur la gestion de l'eau par Veolia ?
Ben, tout à fait. De toute manière, là aussi, reprendre la régie de l'eau, c'est permettre un accès à l'information, aux données, qui soit le plus libre et démocratique possible. C'est d'ailleurs ce que fait Génération Future, en publiant ces cartes qui sont actualisées. Et on le voit bien, Veolia ne fait pas le travail assez fortement, par exemple, pour indiquer aux femmes enceintes et aux familles qui accueillent un nourrisson que lorsque certains taux de perchlorate sont atteints, il ne faut absolument pas, par exemple, mettre cette eau dans le biberon. Et on voit bien qu'en discutant avec un certain nombre de personnes, que certes, c'est indiqué en assez petit sur le contrat quand on reçoit la facture, mais globalement, l'alerte, elle n'est pas assez grande. Et là, encore une fois, en ayant la main et en retournant en régie publique, si on se retrouve face à cette situation qu'on souhaite bien évidemment avoir le moins possible, eh ben on alerte très clairement la population en disant ben là non, c'est pas possible, les nourrissons ne doivent pas boire cette eau et il ne faut pas qu'ils la boivent.
Il y a une question que toi-même tu as eu l'occasion de mettre en avant, puis ça se tombe bien puisque tu parles justement des seuils de qualité de l'eau, c'est la question des critères qui détermine ces seuils. Et tu avais notamment dit dans les colonnes de La Voix du Nord qu'on ne pouvait pas se fier aux résultats communiqués par l'Agence régionale de santé. Je ne sais pas si c'est comme ça que toi tu l'avais formulé, mais c'est comme ça que c'était écrit. Qu'est-ce que tu entends par là sur cette question des critères ?
Alors, je ne l'ai pas formulé de cette manière-là. Moi, les analyses de l'ARS sont très claires. Et on peut faire confiance aux données qui sont issues de ces analyses. Ce qui pose problème, c'est le choix, par exemple, de faire passer certains métabolites de pertinents à non pertinents, ce qui fait que les seuils qui vont être décelés pour rendre l'eau distribuable ou non ne sont plus du tout les mêmes. C'est du x9 quand les molécules sont considérées comme non pertinentes, par exemple. C'est le fait que les effets cocktails ne soient pas du tout pris en compte. Quand on regarde un petit peu, notamment, alors je reviens sur cette carte, hein, dans moneau.fr, on voit bien que ce n'est pas une ou deux molécules qu'on retrouve dans l'eau. Certes, parfois en très petite quantité, mais on va en retrouver 6, 7, 8. Et ces molécules sont pour certaines des perturbateurs endocriniens. Et la particularité des perturbateurs endocriniens, c'est parfois d'être plus dangereux en quantité infinitésimale. C'est-à-dire que ce n'est pas la dose qui va faire le danger, associé à certaines autres molécules, c'est la simple présence qui va créer des effets importants. Et ça, sur les effets cocktails, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a très peu d'études qui vont au bout pour dire, bah oui, associé à l'atrazine, le chloridazone, par exemple, fait tels effets. On ne le fait pas parce que, alors, d'une part, ça coûte très cher, ces analyses. Et surtout, dès que c'est fait sur la plupart des perturbateurs endocriniens, on voit qu'il y a des associations très néfastes. Et il y a beaucoup d'associations scientifiques qui alertent sur cet effet cocktail. Ça, c'est le deuxième point.
Juste une petite parenthèse, comme on commence à rentrer dans des termes techniques, peut-être définir, bon, atrazine, chloridazone, ce sont des traitements phytosanitaires. Métabolites pertinents, non pertinents, qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors, les métabolites, c'est le résultat d'une dégradation d'un produit pesticide. Ça, c'est le premier point. Et pertinent, non pertinent, c'est-à-dire que les autorités de santé vont décider qu'une molécule, par exemple, est pertinente. Il faut absolument, on la décèle prioritairement. Et les seuils qui vont être, on va dire, qui vont faire que l'eau va être distribuable ou non, vont être relativement bas. Quand ils sont non pertinents, les seuils sont remontés. Alors parfois, c'est très étonnant, notamment sur le chloridazone, entre des métabolites du même pesticide, interdit par ailleurs, hein, depuis 2020. On va voir que certains métabolites sont pertinents, d'autres non pertinents. Et quand on cherche les études scientifiques qui ont poussé au fait qu'un métabolite devienne non pertinent, ces études sont quand même très évasives sur les raisons qui poussent à les dévaluer. C'est d'ailleurs ce que Génération Future dénonce très fortement. Il faut savoir aussi que l'ensemble de ces pesticides et métabolites qu'on va trouver dans l'eau, il y a d'une, ces métabolites et pesticides pris individuellement, et il y a la quantité globale qui va être analysé également. Quand on dépasse 0,900 microgrammes de l'ensemble des molécules trouvées, là aussi, on passe un seuil qui normalement empêche la distribution de l'eau. Donc, on voit, première chose à rappeler aussi, la situation est très complexe. Quand on la regarde aussi d'un regard assez extérieur, c'est pour ça que c'est compliqué d'analyser quand on a un regard qui est non scientifique. Moi, j'ai un regard qui est non scientifique, j'ai un regard politique sur la question et un regard de lanceur d'alerte. On voit que pour bien analyser, bien comprendre et bien définir ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ce qui a bougé entre une année et l'autre, eh ben, c'est très compliqué, mais par exemple, moi, ce que je peux certifier, ça n'a pas été contredit, c'est que l'eau de septembre 2025 qui a été distribuée à Arras n'aurait pas pu être distribuée il y a 2 ans, parce qu'un des métabolites issus du chloridazone a été déclassé en non pertinent. Mais ça, c'est une donnée très claire. C'est-à-dire, quand on dit que l'eau qui est distribuée n'aurait pas pu l'être il y a 2 ans, on ne peut pas dire et affirmer à la suite qu'on est de plus en plus strict sur les contrôles. C'est contredit par ce genre de choses. Il y a une donnée aussi importante quand même, je l'ai un peu évoquée, c'est qu'on retrouve beaucoup de molécules qui sont supposées être interdites depuis maintenant quelques années. L'atrazine est le meilleur exemple. L'atrazine est interdite depuis plus de 20 ans. Tant on en retrouve des traces importantes et on sait à quel point l'atrazine pose un certain nombre de soucis. Et ça rappelle un sujet qui est quand même très important, c'est-à-dire que les pollutions que l'on fait maintenant vont avoir une durée de rémanence et dans le sol et dans l'eau qui est très longue et qui impacte aussi les enfants qui viendront demain, les populations qui... C'est encore plus le cas sur les perchlorates qui ont une durée de vie encore plus grande, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire évoluer sur cette question les pratiques sur le territoire pour préparer quand même une eau et une terre qui soient la plus propre possible et indemne de polluants chimiques.
Il y a une question... qu'on n'a pas encore soulevé, mais qui est concomitante, vu qu'on parle de politique, de programme, d'action publique, c'est la question des budgets. Parce que la pollution, la dépollution, a un coût qui est grandissant, vu qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de polluants, aussi parce qu'on fait peut-être plus de tests, tout simplement. Mais ça a un coût, comment on peut... Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente comme coût et comment on peut... On pourrait financer en fait des programmes de dépollution ou des programmes d'amélioration de la qualité de l'eau en revenant aussi sur les causes de la pollution.
Tout à fait. Mais c'est un rappel essentiel, c'est que toutes ces pollutions ont un coût qui est exorbitant sur la facture d'eau. Et autre rappel, c'est que l'eau dans les Hauts-de-France est une des eaux les plus chères de France. C'est-à-dire qu'on a une des eaux qui est la plus polluée du territoire national. Et en même temps, on a une des eaux les plus chères de France. Ça s'explique très bien. Hein. C'est que cette eau d'assez mauvaise qualité, il faut la traiter parce qu'elle le serait d'autant plus si on ne la traitait pas. Donc il y a tous les traitements qui sont appliqués après les zones de captage qui coûtent cher. Et ça, il faut bien évidemment le dire. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que ça coûte bien moins cher in fine de traiter le problème à la source que de le traiter en fin de chaîne. Ces éléments qu'on a donnés, hein, c'est l'installation de maraîchers en bio, les paiements pour services environnementaux. À moyen terme, tout ça coûterait bien moins cher, et bien, bien moins cher, que de continuer à traiter des molécules de plus en plus compliquées à traiter. Et là vient l'autre point qu'on est obligé de traiter et qu'il va falloir traiter de plus en plus efficacement, parce qu'on a des molécules qui sont très, très fines, très compliquées à capter, que le charbon actif ne peut pas capter. Et là, il y a sans doute un pan de recherche qui n'a pas été assez fait. Sur la question des perchlorates, par exemple, c'est un sujet qu'on prend, qui n'est pas le fait de politiques récentes, de pratiques agricoles ou industrielles récentes, en tout cas globalement. Et aujourd'hui, on aurait dû avoir une solidarité nationale, notamment pour mettre en place de la recherche, parce que c'est des molécules très compliquées à capter, pour trouver le process industriel le moins cher possible qui permette aux habitants des Hauts-de-France d'avoir le moins de perchlorate possible dans leur eau. La recherche, là aussi, aurait été importante. Elle a été insuffisamment mise en place parce qu'encore une fois, le sujet n'était pas sur la table. La pollution de l'eau du robinet, c'est un sujet... Tout le monde en a parfois conscience sur des odeurs de chlore, mais sur des odeurs parfois qui sont un peu différentes, voire sur des pollutions encore plus, on va dire, visibles, comme ça a été le cas à Ficheux très récemment. Mais cette pollution chimique fine de l'eau n'était pas un sujet qui mobilisait la population. Aujourd'hui, c'est le cas pour des raisons qui sont très compréhensibles. Et il faut absolument embrayer sur des... Alors, il y a l'osmose inversée qui fonctionne un peu mieux que le traitement par charbon actif. Mais il va falloir en effet et traiter à la source et traiter mieux au robinet. Et ça coûte cher.
Drink more water.
Alexandre Cousin, élu écologiste au Conseil régional des Hauts-de-France, avec qui nous évoquions la gestion de l'eau à Arras, ainsi que les propositions pour améliorer sa qualité. Retrouvez les épisodes de cette série « L'eau à Arras, paroles croisées autour d'un bien commun » sur notre site internet radiopfm.com.